Voilà, il y a 15 jours, nous avons poursuivi notre série sur le roi Salomon en parlant de sa sagesse. Une sagesse hors du commun, reçue de Dieu et démontrée dans le fameux jugement que nous trouvons relaté au chapitre 3 du premier livre des rois. Ainsi, après avoir esquissé quelques ambiguïtés au début de ce même chapitre 3, l'auteur du livre des rois commence à nous montrer Salomon dans toute sa sagesse. Et c'est ainsi que dans la suite du récit qui va nous intéresser ce matin, l'auteur va enfoncer le clou et continuer à nous montrer Salomon dans sa sagesse, mais aussi dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa renommée et dans sa puissance. Il s'agit de la section qui va du début du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 5. À la fin du jugement rendu par Salomon au chapitre 3, nous lisons ceci. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. L'auteur poursuit ensuite en nous proposant au chapitre 4 la liste des hauts fonctionnaires de Salomon, avec beaucoup de noms, de personnes, de localités qui ne nous disent pas grand-chose, mais qui ont pour but très certainement de continuer à nous montrer la grande sagesse de Salomon, visible dans l'organisation de son royaume. Puis arrivé au chapitre 4, verset 20, et jusqu'à la fin du chapitre, l'auteur nous propose plusieurs versets qui disent explicitement cette fois-ci la grandeur, la gloire, la renommée, la puissance et la sagesse de Salomon. Et nous allons lire ces versets, je lirai donc du chapitre 4, verset 20, jusqu'à la fin du chapitre, verset 34. 1 Roi 4, verset 20 à 34. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays, de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il y avait la paix de tous les côtés alentour. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinées à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrachite, plus qu'Aiman, qu'Alcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Cette section est, c'est le moins qu'on puisse dire, très élogieuse sur Salomon. Et elle commence par faire le lien avec la promesse que Dieu a faite à Abraham d'un peuple nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Promesse faite à Abraham et bien évidemment à sa descendance. Le peuple est nombreux. Il est nombreux et il est en paix, en sécurité. Il mange, il boit et se réjouit. Et il peut le faire parce que le royaume est prospère, parce que le royaume est sécurisé, par Dieu bien sûr, mais au moyen de la grande sagesse du roi Salomon. Une prospérité et une sécurité soulignées au début au verset 25 par l'expression proverbiale qui sera reprise par le prophète Michée et qui servira à décrire le futur royaume messianique. Chacun était sous sa vigne et sous son figuier. Oui, le royaume de Salomon est prospère. Et comme nous le lisons au verset 21 et 24, Salomon dominait sur tous les royaumes frontaliers. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Les indications fournies dans ces versets que nous avons lus au sujet de la grande quantité de vivres consommés tous les jours par Salomon et par sa cour servent aussi à montrer la grandeur et la gloire de Salomon. C'est également le cas avec l'évocation ici au verset 26 du grand nombre de chevaux destinés à son armée. Alors il y a des choses ici à dire sur les manuscrits, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais certains manuscrits ont plutôt 4000 à la place des 40000 qui sont notés ici. Et 4000, c'est déjà un chiffre très important, certainement un peu plus réaliste que les 40000 de notre texte. Une armée de 4000 chevaux. Il est question de crèche ici, c'est-à-dire d'écurie. 4000 écuries, c'était pas rien. Et ça souligne la très grande puissance militaire de Salomon. C'est inédit en Israël. David n'avait pas ça. Salomon possède une armée certainement la plus puissante à cette époque. Mais la question qu'il faut véritablement se poser ici est celle du pourquoi. Pourquoi l'auteur fait-il mention de ce détail à ce stade? Un détail qui est noyé au milieu de toutes ces autres informations au sujet de la grandeur du royaume de Salomon. S'il n'est possible d'y voir qu'une indication de la puissance de Salomon, certains voient ici un autre indice laissé par l'auteur du Livre des Rois pour nous montrer que le tableau n'est pas si idyllique que ça. Pourquoi est-ce que l'on peut penser ça? On peut penser ça parce que cette mention du grand nombre de chevaux, alors que ce soit 4000 ou 40000, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais la mention de ce grand nombre de chevaux fait directement écho à une parole précise de Dieu que l'on trouve dans le livre du Deutéronome et qui parle justement des futurs rois d'Israël. Voilà ce texte, je lis Deutéronome 17, versets 14 à 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qu'il ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. On reviendra sur ce texte à la fin de la série, mais nous voyons déjà ici, pour ce qui nous concerne ce matin, que clairement, Dieu interdit au futur roi d'Israël de faire exactement ce que Salomon vient de faire. En plus, précisément, avec l'Égypte. Décidément, les ambiguïtés du roi Salomon sont bel et bien là. Et l'auteur des Rois se plaît à en semer les indices. Ceci dit, si cet indice est bien présent et indéniable, le ton de la section que nous avons lue est sinon entièrement positif. C'est quand même ça qu'il faut retenir avant tout ici. Et le chapitre va se terminer avec l'évocation de la très grande sagesse de Salomon, une sagesse qui surpasse toutes les sagesses de l'époque, l'évocation aussi de sa très grande connaissance, de sa très grande intelligence, qui lui permettront de parler, de disserter sur beaucoup de sujets et de prononcer 3000 proverbes et d'écrire 1005 chants. L'évocation enfin de sa très grande renommée parmi les nations. Et ainsi, nous l'avons vu, il venait des gens de partout, de tous les peuples, pour entendre la sagesse du roi Salomon. Le tableau qui nous est présenté ici est indiscutablement glorieux, et il ressemble même à ce qui est dit du futur royaume messianique dont parlera le prophète Michée au début du chapitre 4. Mais il manque quelque chose à ce tableau idyllique. Il manque un temple. Il manque une maison pour l'Éternel. La note de section de ce passage de la Bible d'étude du semeur résume bien la situation pour nous. Et je vous l'ai mise en entier parce qu'elle résume vraiment bien les choses. Par le moyen de ces diverses descriptions du règne de Salomon, l'auteur s'attache à en souligner la grandeur et la puissance. Israël connaît, sur le plan politique, du moins son âge d'or. À sa tête se trouve un roi doté d'une sagesse, d'une intelligence et d'une culture hors du commun, et par conséquent, pleinement apte à rendre la justice et à conduire les affaires du royaume. À cette sagesse incomparable du roi s'ajoute la puissance de son règne, que le texte met en évidence de diverses manières. Il domine sans conteste sur les royaumes avoisinants, procurant ainsi la paix et la sécurité à Israël. Il s'est allié par mariage à la puissance régionale qu'est l'Égypte. Il est entouré de nombreux conseillers, hauts fonctionnaires et gouverneurs, ainsi que d'une armée nombreuse et bien équipée. Ce royaume puissant et bien organisé connaît non seulement la paix, mais encore l'abondance matérielle. Tout cela a d'heureuses conséquences pour le peuple qui vit en paix et a de quoi vivre. Mais une chose manque aux yeux de l'auteur, le temple pour l'Éternel. La suite du récit relate sa réalisation. Tout ce que l'auteur du livre des Rois va dire sur le temple commence au début du chapitre 5 avec une section qui décrit l'alliance conclue par Salomon avec Hiram, le roi de Tyr. Alliance conclue pour recevoir de lui du bois de cèdre et des cyprès nécessaires à la construction du temple. En parallèle de cet approvisionnement en bois venant de l'actuel Liban, commence dans les montagnes d'Israël la taille des blocs de pierre qui vont servir à la construction du temple. Une construction qui est décrite au chapitre 6. Et voici comment commence le chapitre 6 et comment il termine. Et si vous en voulez plus, il faudra lire le chapitre à la maison. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur, c'est-à-dire un peu plus de deux fois le tabernacle. La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Alors à ce stade de mon message, il a fallu que je fasse des choix. Parce que tout ce qui concerne la construction du temple est porté dans notre texte par une multitude de détails, une multitude de descriptions très minutieuses, de détails architecturaux très intéressants, bien évidemment, mais dont la lecture aurait été un peu soporifique. Je vous aurais inondé de détails, je vous aurais sans doute noyé et je vous aurais perdu. Et je ne le voulais pas, je voulais vous garder avec moi. Donc, je vous invite à lire ces détails si vous le souhaitez à la maison. Alors, le livre des Rois n'a qu'un chapitre consacré aux détails de la construction. Si vous allez dans le livre des Chroniques, vous en aurez beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de détails. Donc il y a une certaine sobriété dans le livre des Rois, mais ça aurait été quand même très fastidieux. J'ai donc choisi de m'arrêter simplement sur 3 clés d'entrée pour nous aider à mieux appréhender cette étape tellement importante dans la vie du peuple de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Et la première étape, la première clé, va nous amener à réfléchir à la raison d'être du temple. Pourquoi un temple ? Pourquoi faire ? Dieu a-t-il besoin d'un temple ? Dieu a-t-il besoin d'une maison pour y résider ? Voici la réponse que donnera Étienne bien plus tard dans le livre des Actes, au chapitre 7, versets 46 à 50. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes choses, toutes ces choses? À la question « Dieu a-t-il besoin d'un temple ?», nous répondons clairement non. Non, Dieu n'a pas besoin d'un temple. Comment un temple, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la grandeur, quelle qu'en soit la beauté, Comment un temple pourrait-il contenir le Créateur de toutes choses? Celui dont la main a fait toutes ces choses? C'est à cette même conclusion que Salomon, avec la sagesse qu'il avait, arrivera au moment de la dédicace du temple, dont nous parlerons un petit peu plus tard. Et voilà ce qu'il écrit au chapitre 8, verset 27. « Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, que je t'ai bâtie. » Non, Dieu n'a pas besoin d'un temple. Un temple qui ne pourrait d'ailleurs pas le contenir. Dieu n'a pas besoin d'un temple pour l'abriter, comme tous ces temples païens qui abritaient leurs idoles. Clairement, le temple n'était pas pour Dieu. Le temple était pour le peuple. Ainsi, le temple était un lieu que Dieu lui-même avait choisi. Un lieu que Dieu avait choisi pour y établir et manifester sa présence au peuple d'Israël, et dans une moindre mesure aux nations, un lieu que Dieu avait choisi pour y placer son nom. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 12 du livre du Deutéronome. Et dans ce chapitre 12 du livre du Deutéronome, alors que le peuple s'apprête à entrer dans le pays de Canaan, Dieu lui donne des instructions pour qu'il le serve. Une fois qu'il sera installé, une fois que Dieu lui aura donné du repos, une fois qu'il les aura délivrés de tous leurs ennemis, Dieu leur donne des instructions pour qu'ils le servent dans un lieu qu'il aura choisi lui-même. Et cette précision est répétée à 6 reprises dans ce chapitre 12. Pourquoi le temple ? Pourquoi faire ? Nous pouvons répondre en nous appuyant sur ce qui est dit dans ce chapitre 12 du Deutéronome, afin que le peuple de Dieu puisse adorer Dieu dans le pays promis, dans le lieu choisi par Dieu, après qu'il ait détruit tous les lieux où les nations servaient leurs idoles. Afin que ce lieu soit l'alternative à ces cultes païens du pays de Canaan, et que le peuple ne soit pas tenté de les imiter. Le temple est donc pour le peuple. C'est une accommodation aux limites et aux besoins du peuple de Dieu dans le pays de Canaan, comme le tabernacle l'avait été dans le désert. Notons bien qu'il n'y avait qu'un seul temple pour tout le pays, pour tout le peuple. Le temple était ainsi le moyen d'unifier le peuple dans son alliance à Dieu, d'unifier le culte à l'Éternel. À l'inverse des cultes païens où il y avait multiplicité de lieux de culte, de hauts lieux où l'on adorait des idoles, ce qui divisait et diversifiait les cultes païens. Et l'unité de tout le peuple de Dieu dans le culte à l'Éternel était particulièrement visible lors des 3 fêtes à l'Éternel, quand le peuple montait à Jérusalem pour adorer d'une seule voix l'Éternel. Le temple n'était donc pas pour Dieu, mais il était de sa volonté, pour son peuple, une accommodation, une concession. Dieu qui avait lui-même choisi ce lieu, le lieu où le temple est bâti. Et ce lieu, c'est le lieu où Dieu était apparu à David après ce recensement coupable à la fin de sa vie, un lieu que David avait acheté. Et vous vous souvenez peut-être qu'il avait dit alors ceci, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Et il se trouve que ce lieu, c'est le mont Moria où Abraham s'était rendu pour sacrifier Isaac. Aujourd'hui, ce lieu existe toujours à Jérusalem c'est là où se trouve le dôme du rocher. Bien sûr, le temple n'y est plus. Dieu s'est donc servi de David pour poser les premiers jalons du temple en achetant le terrain où il allait être construit et puis en préparant une grande partie des matériaux nécessaires à la construction du temple. David, qui aurait aimé construire le temple lui-même, il en avait le désir. Il considérait inconvenant pour lui d'habiter dans un palais alors que Dieu habitait dans une tente. C'est ce qu'il dira de Samuel 7, versets 1 à 3, lorsque le roi habita dans sa maison, il est question ici du roi David, et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » David avait le désir de construire une maison à l'Éternel et le prophète Nathan l'encourage dans ce sens. Mais Dieu avait d'autres projets. La mission de David a été de sécuriser le pays, a été d'apporter la paix, de se débarrasser des ennemis. Et ainsi David a passé une grande partie de sa vie et de son règne à faire la guerre. Et Dieu lui dira que ce n'est pas lui, mais son fils, Salomon, qui construira le temple. De Samuel 7, versets 12 et 13, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Oui, c'est bien Salomon que Dieu a désigné pour bâtir le temple. Mais David ne s'arrête pas là. Et David va passer la fin de son règne, la fin de sa vie, et y mettre toutes ses forces à préparer cette construction pour son fils Salomon. Et c'est ainsi que, inspiré par Dieu, c'est ce qui est dit dans le livre des Chroniques, au chapitre 28, verset 19, il va faire et il va transmettre à Salomon les plans du temple, les plans du parvis, les plans des chambres attenantes pour y mettre les trésors de la maison de Dieu. Il va faire et transmettre à Salomon les modèles de tout ce qui sera dans le temple, tous les objets utiles au service, depuis la table des pains de proposition en passant par les chandeliers et j'en passe. David va commencer à amasser des quantités d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois, de pierres précieuses, de marbre blanc, en quantité importante pour le temple. Tout ça, vous le trouvez dans le livre des Chroniques. Il va préparer des ouvriers, il va préparer des tailleurs de pierre, des charpentiers et des hommes habiles, dit le texte, dans toutes sortes d'ouvrages. 1 Chronique 22, 15. Il va ordonner à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon le moment venu. Et puis il va organiser le culte. Il va réorganiser la fonction des Lévites. Ils n'auront plus besoin de porter le tabernacle. Alors il va réorganiser tout cela pour les Lévites, pour les sacrificateurs, pour les chantres. Et c'est ainsi que Salomon va pouvoir commencer la construction du temple très rapidement en réalité. Parce qu'il la commence dès la quatrième année de son règne. S'il avait eu besoin, lui, de préparer tout ça, il n'aurait pas pu commencer la quatrième année de son règne. Et comme on l'a vu, la construction a commencé donc au mois de Ziv, c'est-à-dire c'est le deuxième mois, et elle s'est terminée la onzième année au mois de Bul, le huitième mois, donc précisément 7 ans, et 6 mois de construction. Et maintenant, Israël possède un temple. Super, ça y est, on est arrivé au bout du chemin. Le temple est glorieux. Peut-être que je vous mettrai quelques images. Alors, c'est que des illustrations, parce qu'en réalité, on ne sait pas trop. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait. Mais... un temple glorieux. Si vous lisez ce qui est dit dans le texte, dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, waouh, vous dites, c'est la démesure. Un temple glorieux, mais temporaire. Temporaire. Et ce temple va être détruit. Quelques temps plus tard, enfin quand même quelques siècles plus tard, en 586, par Nebuchadnezzar, quand les Babyloniens vont venir détruire Jérusalem, détruire le peuple, détruire le temple et emmener le peuple en captivité. Le temple sera détruit et puis il sera reconstruit par les exilés qui reviennent 70 ans après, en 516 avant Jésus-Christ. Et puis ce même temple va être restauré, va être agrandi par Hérode le Grand vers l'an 20 avant Jésus-Christ pour être finalement entièrement détruit, rasé par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et la question, et je vais terminer avec ça, c'était... Tout ça pour m'amener à cette question, et maintenant. D'accord, c'est bien de savoir tout ça, mais ça nous apporte quoi pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Est-ce qu'il faut, comme certains le pensent et l'affirment, que le temple soit reconstruit un jour à Jérusalem? Il semblerait même que des matériaux soient prévus dans un hangar pour cela. Est-ce que c'est ça qu'il faut viser? Est-ce que c'est ça vraiment le plan de Dieu? Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le temple n'a jamais été une fin en soi. Jamais. Ce qui a toujours compté, ce n'est pas le temple, c'est la présence de Dieu. Et c'est l'adoration à Dieu. Voilà ce qui est important. Et la venue de Jésus va clairement montrer cela. Elle va clairement et définitivement montrer que le temple est obsolète et caduque. Jésus lui-même va être identifié au temple dans Jean au chapitre 2, versets 18 à 21. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu qui est parmi nous, Dieu qui habite avec nous. Jean dit même qu'il a tabernaclé, qu'il utilise ce verbe pour rappeler le tabernacle, donc le temple, la présence de Dieu en Jésus parmi nous. Jésus qui fera comprendre à la Samaritaine que le temple et Jérusalem sont définitivement caducs. Pour ce qui est de la présence de Dieu et de l'adoration de Dieu, vous connaissez bien ce texte, où Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Il n'y a plus besoin de lieu spécifique. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà venue, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Oui, l'heure vient et elle est déjà venue par la venue de Jésus, par la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, quand l'Esprit a été répandu. Et cette heure qui est venue fait de nous les heureux privilégiés qui peuvent adorer Dieu sur toute la surface de la terre. Plus besoin d'aller à Jérusalem, plus besoin de temple pour adorer Dieu. Nous pouvons le faire à Nîmes, nous pouvons le faire à la Combe des Oiseaux, nous pouvons le faire chacun chez nous, dans notre maison. L'heure est venue. Pourquoi ? Parce que si nous sommes disciples du Christ, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous avons toute légitimité pour adorer Dieu dans son temple. Dieu qui nous accompagne de sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette réalité des chrétiens qui sont le temple de Dieu, réalité aussi affirmée pour l'Église dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous lisons dans de nombreux textes et j'aimerais juste vous en donner quelques-uns pour vous montrer comment le Nouveau Testament construit cela. Le premier, sans doute le plus connu, 1 Corinthiens 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et puis dans Éphésiens, il est plutôt question de l'Église. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, on parle bien du temple ici, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. » Temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis un dernier texte, 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mes amis, il n'y a aucun doute, nous sommes, si nous sommes en Christ, nous sommes le temple de Dieu. Alors, quelle déduction pouvons-nous en tirer ce matin ? Pouvons-nous rappeler que ce que Dieu a voulu faire après la rupture due à la chute dans le jardin d'Éden, la rupture entre l'homme créé et son Créateur, c'était de restaurer cette communion perdue par le salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Mais le but recherché par Dieu n'était pas que cela se concrétise par un temple fait de bois et de pierre, aussi précieux soit-il, mais qui ne sont que l'ombre des réalités à venir. Le but recherché devait se concrétiser dans la présence de Dieu en nous, la restauration parfaite de la communion avec lui. Alors c'est vrai déjà aujourd'hui, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans nos vies, mais c'est vrai de manière très imparfaite pour l'instant. Parce que tout ça est encore voilé, entaché par le péché dans nos vies. Mais quand les temps seront accomplis, quand Jésus sera revenu et que les premières choses auront disparu, alors plus rien ne fera obstacle à la communion entre Dieu et nous, entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chacun de ses enfants. Parce que nous serons alors parfaitement semblables à lui, dit l'apôtre Jean, entièrement, éternellement saints. Et nous pourrons alors véritablement adorer Dieu en esprit et en vérité sans que rien ne vienne parasiter cette adoration. Et cette vision, nous la trouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans un de ces nombreux tableaux qui décrivent la gloire céleste. Chapitre 21, je lis juste les premiers versets et les derniers. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, une image de la nouvelle création. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est là qu'il faut bâtir le temple, dans la nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or, pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem, comme il n'y avait pas de temple dans le Jardin d'Éden d'ailleurs, là où la communion était néanmoins parfaite. Pas de temple dans la nouvelle Jérusalem et la boucle est bouclée. Dans la gloire, il n'y aura pas de temple parce que Dieu lui-même sera le temple des rachetés, parce que l'agneau sera au milieu de son peuple, parce qu'aucune impureté ne pourra empêcher l'accès des rachetés auprès de Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple des rachetés, sera alors dans la communion parfaite de la présence de Dieu et de l'agneau, qui a fait de chacun des siens des sacrificateurs, un sacrificateur pour Dieu. C'est ce que Jean écrit dès le début du livre de l'Apocalypse, et je termine avec ce verset. Il dit ceci au verset 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, des sacrificateurs dans le temple de Dieu. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.